suite dans les idées, Sylvain Bourbeau. Depuis une trentaine d'années, nombreux sont ceux qui plaident pour une nouvelle alliance entre science et religion, tentant de nous convaincre qu'il n'y aurait entre ces deux manières de voir le monde aucune espèce de contradiction ou de conflit. Cet écuménisme béat, qui n'hésite pas à réécrire totalement en l'édulcorant l'histoire violente des relations entre institutions religieuses et institutions scientifiques, s'insinue dans l'espace public, servant les intérêts de groupes de pression aussi puissants qu'organisés qui entendent peser sur la pratique scientifique. Il est plus que temps d'en prendre conscience et d'y résister de manière à préserver l'autonomie des institutions scientifiques, condition nécessaire à la poursuite de son ambition de connaissance rationnelle du monde. Comme l'écrivait Schopenhauer en 1850, l'on ne peut servir des maîtres deux maîtres à la fois. C'est ou bien la raison ou bien l'écriture, avec un E majuscule. Juste milieu signifie ici s'asseoir entre deux chaises. Dans ce studio 142 de la Maison de la Radio, aujourd'hui, mon invité, le sociologue Yves Gingras, et moi sommes chacun assis sur un fauteuil de travail qui n'a en rien, je vous l'assure, l'allure d'un prie-Dieu. Yves Gingras, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, vous êtes professeur à l'Université du Québec à Montréal, où vous êtes titulaire d'une chaire de recherche du Canada en histoire et sociologie des sciences. Et vous faites paraître aux presses universitaires de France l'impossible dialogue science et religion. Alors dans ce livre, vous partez d'un constat, Yves Gingras, qui est celui d'une inflexion de l'histoire des sciences. Il y a de ça une trentaine d'années, disons les années 80, 90. Inflexion qui a vu un certain nombre d'ouvrages paraître, de travaux paraître, qui reviennent sur l'histoire des sciences en nous expliquant au fond que ce dialogue que ces travaux appellent leur vœu aujourd'hui, eh bien il existe depuis toujours, il se passe plutôt très bien, et que la cohabitation, la coexistence entre la recherche scientifique et la théologie ou le pouvoir des religions s'est plutôt très bien passé dans l'histoire. Ce qui est quand même un peu discutable, c'est le moins qu'on puisse dire, quand on connaît cette histoire, et c'est votre cas, et dans ce livre, vous avez choisi de revenir au moins à un moment fondateur, qui est l'histoire de Galilée, mais aussi de vous intéresser à la période la plus contemporaine pour comprendre les enjeux, les raisons qui poussaient un certain nombre d'acteurs sociaux à forcer, en quelque sorte, ce dialogue qui n'a guère de sens, Yves Gingras.
Oui, c'est un peu le réflexe du sociologue en moi qui s'est dit, comment se fait-il que depuis les années 80, on voit apparaître ce nouveau discours qui est complètement nouveau, de dire qu'il y a un dialogue entre la science et la religion. Or, quiconque connaît moindrement l'histoire des sciences, puis même tous les livres d'histoire des sciences depuis le 19e siècle, c'est, sans faire une analyse sémantique compliquée, que le maître mot, c'est conflit. Si vous faites une analyse sémantique des mots, comme je l'ai fait d'ailleurs avec un usage d'un logiciel de Google, c'est que si vous mettez le mot conflit avec science et religion, c'est le seul mot qui va apparaître. Et le mot dialogue science-religion ne va apparaître dans les corpus qu'à partir des années 80. Donc, pourquoi ce changement? Et donc, j'ai suggéré un certain nombre de causes, dont le tout début de cette nouveauté-là, c'est Jean-Paul II, qui en novembre 1979 relance le fameux procès de Galilée en se disant, bon, si on a fait une erreur, on doit l'admettre ou non. Mais pour aller au-delà et dire, mais pourquoi même Jean-Paul II relance cette histoire-là en 1979, je fais l'historique de ce que j'appelle, au fond, les deux épines au pied des papes, que depuis 1635 jusqu'en 1992, il faut quand même voir que ça fait à peu près un chiffron à 350 ans, tous les papes ont résisté à accepter la demande de la communauté scientifique qui s'exprime dès 1635 de libérer Galilée, d'enlever le livre de Copernic de l'index, parce qu'il faut rappeler qu'en 1616, et au fond, mon livre paraît en mars 1616, c'est pas un... Pardon, 2016, bien sûr. C'est pas un hasard, c'est le 5 mars 1616, l'ouvrage de Copernic est mis à l'index et indirectement, Galilée était aussi condamné. Indirectement parce que on ne mentionne pas le nom de Galilée, mais tous les intellectuels de l'époque avaient compris que c'est Galilée qu'on visait, parce que bien sûr, Copernic était mort depuis 1543. Et donc, 400 ans plus tard, c'est à bien de rappeler la complexité de cette histoire. Mais pourquoi la rappeler? Parce que, comme vous venez de le dire, depuis 30 ans, curieusement, les historiens des sciences nous disent on a exagéré le conflit. On dit même que l'idée de conflit entre science et religion est un mythe qui a été construit dans les années 1860 et 1870 aux États-Unis par deux savants anti-catholiques, Draper et White.
Alors on va revenir sur cette histoire parce qu'elle est, elle est passionnante. Vous la retracez, vous essayez de comprendre pourquoi tout ça survient à partir des années 80. Mais quand même, pour montrer à quel point on est entré dans l'absurde, au fond, vous expliquez que il s'est trouvé des gens de foi, en l'occurrence de mauvaise foi, pour expliquer qu'au fond, l'Église aura servi Galilée puisque en le maintenant prisonnier en quelque sorte, elle l'aura forcé à continuer ses travaux scientifiques. On a ce genre de raisonnement quand même.
Oui, c'est qu'on pousse le raisonnement à l'absurde en disant, au fond, on a exagéré le conflit et c'est tellement vrai qu'il faut maintenant regarder les avantages qu'a amené la religion. Le plus extraordinaire, c'est la vieille thèse de Pierre Duhem, qui est un grand savant, mais aussi un grand philosophe, catholique, très croyant, qui s'est dit, au fond, arrêtons de dire que Galilée était condamné. Premièrement, Galilée avait tort. C'est Bellarmine qui avait raison. Et c'est grâce à la condamnation de l'évêque Tempier en 1277 de la physique d'Aristote qu'on voit, au fond, le début de la science moderne. Pourquoi? Et vous allez voir l'absurdité, en un sens, le sophisme du raisonnement. C'est que, sous Aristote, le monde est déterminé et est plein. Or, la toute-puissance de Dieu fait que, si le vide n'existe pas, selon Aristote, c'est limiter la puissance de Dieu. Donc, Dieu étant tout-puissant, si on a une vision catholique du monde, on peut penser le vide, et le vide, on sait, c'est la condition de possibilité de la science moderne. C'est un raisonnement logique, effectivement, bizarre, qui revient à dire, non seulement ça c'est vrai, mais la condamnation de Galilée, comme il était incarcéré, ça lui a permis de faire son fameux livre de 1638. Vous voyez, c'est des raisonnements bizarres, alors que le travail de l'historien n'est pas de justifier la religion et de comprendre le comportement des acteurs en expliquant pourquoi Galilée a été condamné en 1633, pourquoi Copernic a été mis à l'index en 1616, parce que son livre n'a pas dérangé personne entre 1543 et 1615. Et donc, la raison, c'est qu'effectivement, Galilée a commencé à 1615 à crier sur tous les toits, en italien en plus, que le livre de Copernic était une révolution et que la Terre n'était pas au centre de l'univers. Tant qu'on le disait de façon confidentielle entre trois astronomes, ça ne dérangeait pas l'Église catholique. Mais lorsqu'on le dit un peu dans tout le milieu intellectuel, ça finit par se savoir et l'Église doit intervenir.
Alors, ce genre de sophisme, effectivement, on les retrouve très fréquemment dans la théologie. Vous y intéressez assez peu dans ce livre. Ce qui vous intéresse, c'est d'écrire cette histoire, de rappeler à quel point elle a été conflictuelle. Et ce que vous apportez, je trouve, de très précieux et passionnant dans ce livre, c'est les chapitres qui concernent les années les plus récentes et notamment l'attention que vous portez à une figure que l'on ne connaît pas assez, je pense, en France, pour mesurer dans quelle situation nous nous trouvons aujourd'hui, c'est celle d'un certain John Templeton. Qui est ce John Templeton et pourquoi il a joué un rôle important dans la promotion, au fond, de ce dialogue et dans la constitution de ce qu'on peut appeler aujourd'hui un groupe de pression qui pose des problèmes à l'autonomie, à l'indépendance de la recherche scientifique.
Et ça, c'est très intéressant parce que là, on voit les effets pervers de la philanthropie. Templeton, c'est un presbytérien dévot qui a fait ses milliards grâce à des investissements financiers. C'est un Américain, mais dès les années 1960, il s'est installé aux Bahamas, parce qu'il a compris très vite que s'il veut pas avoir de taxes, il faut être aux Bahamas, qui est
un paradis. Ce qui, pour un homme croyant, est peut-être logique aussi.
Effectivement. Et comme ça relève de l'Angleterre, ça lui permet donc d'être en contact avec Margaret Thatcher, qui le rend Sir John Templeton en 1987. Comme il est maintenant adoubé Sir, il crée une fondation, et là, il donne tous ses milliards pour faire avancer la cause qui lui tient à cœur, sa conviction, c'est que la science et la religion, c'est inséparable, et que la science peut servir la religion. Donc, comme je dis régulièrement, que si la foi déplace les montagnes, l'argent le fait plus facilement. Donc, il investit des dizaines de millions de dollars à tous ceux qui acceptent de dire que, finalement, on a exagéré le conflit, que oui, il y a dialogue. Et vous avez aussi cette tendance des mots de dire dialogue, conversation, discussion, tous les mots qui peuvent remplacer le mot conflit qui est devenu tabou.
Et d'ailleurs, on a vu fleurir de façon plus vaste, indépendamment de Templeton, sur lequel on va revenir, on a vu fleurir tout un tas de livres qui prennent la forme de dialogue entre un homme de religion et un homme de science. On pourrait en faire la liste. Je pense qu'il y en a eu des centaines de publiés en France, aux États-Unis.
Et ça, c'est intéressant parce qu'on a tendance à me dire, oui, mais tu sais, en France, c'est pas un problème, ton livre, ça touche le monde anglo-saxon, Templeton. Mais c'est pas vrai parce que je montre très bien que dans les millions de dollars, surtout anglo-saxons, il y en a un bon nombre de millions qui ont été donnés en France à des gens qui ont publié des livres en français, qui ont fait des conférences et qui ont fait acheter des livres dans les bibliothèques dont le but est, par exemple, en Roumanie, 2 millions de dollars pour diffuser dans les bibliothèques des livres sur les rapports entre sciences et religion et faire créer des cours sur les rapports entre sciences et religion. Donc, la multiplication dans les universités de soudainement de cours sur les rapports sciences et religion, si vous grattez un peu, très souvent, ils ont un octroi de Templeton dont le but est donc de mousser cette chose-là qui, autrement, n'aurait jamais pris cette ampleur, parce que je montre dans un graphique la croissance exponentielle du nombre de livres à partir de 1980. Ça peut pas être le fruit du hasard.
Alors, qu'on vous comprenne bien, Yves Ingrat, ce qui vous intéresse, ce sont les relations entre des institutions, la religion, la science. Ces institutions religieuses et ces institutions scientifiques sont multiples, variées. Ce n'est pas la question de savoir si ceux qui pratiquent la science sont croyants ou pas croyants. Ce n'est pas ainsi que vous entendez regarder les choses. En revanche, vous plaidez, on pourrait dire, pour une science athée, ou, pour le dire autrement, vous plaidez pour une sorte d'athéisme méthodologique de la science, qui est le seul moyen d'adopter une attitude rationnelle, de postuler, puisqu'il y a bien un postulat à l'origine de la pratique scientifique, qu'on pourrait qualifier ainsi, athéisme méthodologique.
Oui, effectivement, au fond, je montre que, historiquement, cette idée que j'appelle plutôt aussi le naturalisme méthodologique s'exprime dès le début du 17e siècle dans les travaux de Galilée, qui dit explicitement un bout qu'on ne cite jamais du dialogue sur les deux grands systèmes du monde, qui dit que on ne peut pas invoquer un miracle pour expliquer des phénomènes de la nature, parce que le but de la philosophie de la nature, donc ce qu'on appelle aujourd'hui la physique, c'est d'expliquer non pas par le surnaturel, mais par le naturel. Donc cette trame de défense de du naturalisme qu'on retrouve chez Buffon aussi, qu'on retrouve ensuite chez Darwin et avant chez Lyell, on les retrouve successivement jusqu'au milieu du 19e siècle, dans l'extension de toutes les sciences, y compris ensuite les sciences sociales. Renan, qui veut expliquer Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il fait du naturalisme méthodologique, il dit Jésus était un humain, les miracles, ça n'existe pas, il faut expliquer ça par des phénomènes naturels. Donc c'est cette grande histoire de l'autonomisation à la fois de la religion et aussi de la constitution épistémologique, parce que ce que je montre, c'est qu'au fond, l'autonomie épistémologique de la science, si on regarde de près, elle est un effet de la conflit politique. C'est que lorsque la religion dit « ne parlez pas de X et Y », la science se dit « ok, je ne parlerai pas ni de politique », parce que les rois n'aimeront pas ça, ils ne nous subventionneront pas, ni de religion. Donc la Société royale, par exemple, en 1660, dans sa constitution, dit, lors de nos réunions, quelles que soient nos croyances personnelles protestantes, des multiples sectes protestantes, ici on ne parle ni de politique, parce qu'on est en pleine révolution glorieuse, Cromwell, etc., ni de religion. Et on va retrouver ce principe méthodologique, y compris dans les associations italiennes du début du 17e siècle. Donc le contexte politique crée une autonomie épistémologique qui dit, OK, on peut pas discuter de certaines choses, on va créer un domaine qui s'appelle la science, qui va chercher des causes naturelles, qui ne nie pas l'existence de Dieu. C'est pour ça que j'ai un chapitre qui dit Dieu du centre à la périphérie de la science. Et on voit bien dans tous les textes que jamais à partir de 1600 pour la science, 1600, 1700 pour la théorie de la Terre, Darwin 1850, non, on cesse de dire que la cause des phénomènes, c'est Dieu, ou c'est un miracle. On les trouve dans la nature, la sélection naturelle de Darwin, ça dit dans la nature, il y a un principe qui s'applique aux humains. L'histoire des religions, c'est la même chose, qui va venir jusqu'au 20e siècle. On pense en France à Alfred Loisy, qui est un catholique prêtre qui avait une lecture naturaliste. Ben, ses livres ont été mis à l'index et lui, il a été excommunié. Et en réaction, bien sûr, les intellectuels français l'ont nommé au Collège de France en 1909 dans une première chaire de sciences des religions, qui est une histoire rationnelle de la religion. Donc, c'est vraiment une histoire du long terme, d'un processus qui n'a rien à voir avec les croyances personnelles, parce que, bien sûr, au 17e siècle, tous les savants, sans exception, étaient croyants. Galilée était un bon catholique qui était assez surpris, au fond, de se retrouver en prison, entre guillemets, donc confiné à son appartement.
Alors, jusqu'à présent, on parle de science, de religion, sans préciser de quelle religion on parle, il est évident que celle qui vous occupe principalement dans ce livre d'histoire et de sociologie, des rapports entre science et religion, c'est la religion catholique. Parce que ces découvertes scientifiques dont vous avez parlé, elles se font dans un contexte qui est celui de l'Europe occidentale, entre le XVIIe siècle et aujourd'hui. Et c'est surtout face à l'institution catholique que cette science se retrouve en quelque sorte. Ce qui ne veut pas dire que des problèmes ne se sont pas posés avec d'autres religions, qu'ils prennent aujourd'hui, par exemple, parfois des formes aiguës et qui sont relativement similaires, d'ailleurs, à ceux posés par l'opposition à la religion catholique, Yves Gingras.
Oui, effectivement, la raison pour laquelle, effectivement, c'est essentiellement le monde chrétien et catholique aussi, mais aussi protestant. Bien que, comme je le montre, sous les protestants, l'institution n'a pas la même forme avec l'Inquisition, donc c'est beaucoup plus la communauté. Kepler lui-même a été mis au banc de sa communauté. Et ceux qui défendaient, dans les années 1870, dans des collèges protestants américains ou même à Beyrouth, la théorie de Darwin, ont perdu leur emploi. Mais ça se faisait de façon communautaire, localement. On disait, écoutez, même en Angleterre, je donne plein d'exemples, donc dans le monde protestant, mais l'Église catholique ayant un bras armé, les données sont plus précises. Il vous suffit de lire l'index des livres prohibé de 1550 jusqu'à nos jours, jusqu'en 1965, qui est la disparition officielle de l'index des livres grâce à la suite de Vatican II. Et donc, effectivement, mais depuis les années 80, avec la montée du fondamentalisme islamique, encouragé au fond par les États pétroliers comme le Koweït, comme un certain nombre de pays qui mettent surtout l'Arabie saoudite, qui met beaucoup d'argent dans ces choses-là, on voit que le discours qui est structurellement invariant, où on parlait au 19e siècle de la compatibilité ou non, parce qu'on a les deux discours entre la Bible et la science, on a depuis les années 80 les deux mêmes discours d'incompatibilité ou de compatibilité, qu'on appelle le concordisme, entre l'islam et la science. Mais c'est la même structure d'argument, mais elle n'apparaît qu'aux années 1980. On la retrouve aussi dans le monde juif fondamentaliste en Israël, qui depuis les années 90 a réussi à faire diminuer la recherche en anthropologie. Parce que les origines de l'homme, l'homme étant sacré, on ne veut pas l'étudier comme un ossement. Et le cas de l'anthropologie est très intéressant, parce qu'on nous rappelle qu'aux États-Unis, à partir des années 70 aussi, la question des Autochtones et de leur spiritualité, voyez-vous, on passe de l'institution religieuse très forte du 19e siècle à des groupes de pression un peu néo-romantiques qui disent que la nature nous guérit par elle-même et donc on n'a plus besoin de vaccins. C'est relié aussi, et c'est le contenu du chapitre 7 qui termine l'ouvrage, je dis qu'aujourd'hui, attention, c'est plutôt un néo-romantisme qui s'oppose à la recherche scientifique et une forme de fondamentalisme autochtone qui dit « nous, on a une spiritualité » et qui fait que si on prie suffisamment, comme je dis en blague, qui déplaît, si on joue du tam-tam et on fait de la fumée, ça va guérir du cancer. Je donne des exemples précis de jeunes individus de 14 ans, malheureusement, qui sont décédés du cancer parce qu'on a refusé le traitement thérapeutique qui les guérissait à 80%.
Peut-être dernière manifestation de ce phénomène qui commence dans les années 80, on voit fleurir ces derniers temps, je trouve, beaucoup de livres qui pointent ce qui apparaîtrait comme un besoin de spiritualité, y compris d'auteurs qui refusent même le terme de religion. Dernier exemple en date auquel je pense, un livre signé de Philippe Corcuff qui appelle à une spiritualité dans la politique. Alors, c'est pas une spiritualité religieuse, mais il pointe finalement un vide, un manque qu'il y aurait, ça me semble partir au fond, du même phénomène beaucoup plus vaste, Yves Gingras.
Oui, effectivement, je pense que vous avez raison. À mon avis, bon, j'ignorais cet exemple-là qui
il est très récent, il est très
qui m'intéresse au plus haut point, mais qui, à mon avis, confirme ce que j'appelle en fait, ce retour de néo-romantisme. On doit rappeler qu'à la suite du rationalisme triomphant des années 1750-1780, on a eu une phase romantique ou de retour à la nature, qu'on pense à Goethe et à la théorie de la couleur de Goethe qui s'opposait à celle de Newton. On a un très bel exemple là, de cette idée que la science étant naturaliste, la couleur, ben, c'est une longueur d'onde. Alors que du point de vue romantique, non, la couleur, c'est des teintes, hein, c'est de la chaleur, c'est du froid. Bien sûr, ça correspond pas exactement. Donc, c'est des visions qui s'opposent. Et ce néo-romantisme-là, on le retrouve y compris chez beaucoup d'intellectuels. Parce que le paradoxe, c'est pas que ce sont le peuple ignorant qui est romantique. C'est au contraire les gens encore plus éduqués qui sont bons parleurs, qui peuvent invoquer des grands auteurs et nous dire que la science d'aujourd'hui exagère et a désenchanté le monde, comme le disait Weber. libère. Or, c'est assez curieux et c'est une convergence objective avec une trame très profonde. Je pense, par exemple, au livre de Gilles Kepel qui montra très bien ce qu'il appelle la revanche des dieux à partir des années 80. Donc, ce mouvement néo-romantique se retrouve un peu dans tous les domaines et c'est un peu surprenant qu'on le retrouve même en sciences sociales.
Oui, j'aurais pu citer aussi d'ailleurs un autre essai qui a paru au début de l'année de Marc Crépon, un philosophe qui lui aussi, avec la figure de Peggy en particulier, appelle à un retour d'une spiritualité. Le diagnostic, c'est que la gauche serait dans une crise d'identité parce qu'elle n'aurait plus aucune espèce de spiritualité. Ouais. Et voilà, ça me semble participer de la même...
Ouais. Et c'est des discours qui ne sont pas indépendants d'activités réelles. Parce que si on revient un peu à la Fondation Templeton, il faut bien voir que sans les dizaines de millions de dollars, tous les colloques qui ont été organisés sur ces questions-là et qui diffusent lentement, parce que quand on regarde l'apparition d'une idéologie qui semble émerger, c'est rare qu'elle émerge de l'air du temps. Et donc, il existe, au fond, des activités qui prennent du temps. Ça a commencé dans les années 80, on les voit beaucoup plus visiblement dans les années 90, et on pense à des livres « Le visage de Dieu »,« La particule de Dieu », voyez-vous. Et il y a une autre réaction qui est importante, c'est que les grosses organisations scientifiques, surtout anglo-saxonnes pour l'instant, ont peur de la montée des fondamentalismes religieux parce que politiquement, ils sont importants et pour amener un déclin des investissements en recherche et développement. Donc, aux États-Unis, on les a vus s'acoquiner avec la Fondation Templeton pour créer des conférences qui appellent le dialogue science-religion, disant, nous, les scientifiques, on est aussi des croyants. Ce qui statistiquement est faux, toutes les études montrent que plus le niveau d'expertise est élevé jusqu'au prix Nobel et à l'Académie des sciences, le taux de croyants en un Dieu personnel tombe à 10%, alors que dans la population américaine, il est plutôt de 80%. Donc, c'est des discours en plus mensongers, mais qui ont pour but de calmer le courant fondamentaliste évangéliste, qui est très puissant comme groupe de pression aux États-Unis, et qui s'est incarné dans le dernier Bush, qui avait interdit la recherche sur les cellules souches aux États-Unis. On a tendance à l'oublier, que le premier décision du gouvernement Obama a été de, par décret, d'annuler cette interdiction qui était le reflet de l'influence des évangélistes sur le président Bush.
En fait, la façon la plus commune de regarder ce mouvement aux États-Unis, ici depuis la France, c'est de s'émouvoir des manuels scolaires qui ont réécrit la théorie de l'évolution et qui ne supportent pas finalement qu'on enseigne ce que Darwin a initié et qui est depuis repris, complexifié par des travaux de recherche extrêmement importants. Il y a beaucoup d'États aux États-Unis où ce sont les vues créationnistes qui se trouvent enseignées.
Mais on a vu que c'est revenu en France, parce que vous rappelez-vous, il y a environ 5-6 ans, j'ai oublié la date, Yaoun Yaha qui avait distribué en France dans toutes les écoles des grands livres de qualité extraordinaire, voulant démontrer au fond qu'il n'y avait pas d'évolution, ça a fait scandale. Et la différence qui est très importante, c'est qu'en France, comme au Québec d'ailleurs, l'État contrôle de façon d'en haut les programmes scolaires. Le fondement qui permet aux évangélistes d'avoir du poids aux États-Unis, c'est que les écoles sont contrôlées localement. Et donc, si vous êtes dans un petit trou perdu avec 3 électeurs qui sont des évangélistes, ils vont élire sur le comité ceux qui vont choisir les manuels. D'où l'importance d'accorder que les programmes soient décidés au niveau le plus élevé possible, parce que c'est la seule façon d'empêcher l'apparition de sectes religieuses qui viennent s'imposer dans les manuels.
Vous avez dit un mot tout à l'heure, Yves Gingras, de l'anthropologie. Dans votre livre, vous parlez surtout de ce qu'on appelle les sciences dures, mais les sciences sociales, dont vous faites partie, hein, je rappelle, vous êtes professeur de sociologie, sont aussi concernées. Comment vous voyez la situation aujourd'hui? Dans quelle mesure ces groupes de pression qui prônent un dialogue, dans quelle mesure les propos tenus par des papes comme Jean-Paul II, mais aussi Benoît XVI, ont eu un effet dans ce secteur des sciences humaines et sociales?
Dans le secteur où le cas est que je creuse énormément, c'est celui de l'anthropologie. Parce qu'effectivement, les origines de l'homme, c'est un problème. Et c'est tellement vrai, je cite un anthropologue israélien qui a écrit en disant dans les années 2005, j'oublie la date exacte, il dit, voyez-vous, il est rendu presque impossible de faire de l'anthropologie en Israël. Et ça, au fond, ça figure une phrase très importante que Weber écrivait au début du siècle, c'est que la science n'est pas un produit naturel. La science est le produit de conditions culturel. Et on a tendance à le prendre pour acquis aujourd'hui, parce que oui, la science est dominante, ce qui est vrai, mais elle est toujours plus fragile qu'on ne le croit. Bien sûr, ce ne sont pas les mathématiques qui vont être posées problème, mais tout ce qui pourrait attaquer des croyances sensiblement compréhensibles, mais qui doivent pas s'imposer dans l'espace public. Donc, je le vois surtout dans ce domaine-là, et aussi dans la limitation qu'on veut imposer à la sociologie des religions. Et à l'apparition récente, subventionné par Templeton aussi en Angleterre, de chair qu'on appelle, au fond, philosophie de la religion, mais qui, à mon avis, lorsqu'on regarde, c'est une surface pour parler de théologie. Parce que c'est assez curieux, philosophie de la religion, quand on lit ce qu'ils écrivent, c'est une théologie, ils parlent de Dieu. Et il y a des livres récents qui parlent, par exemple, de l'ontologie de Dieu. J'ai vu ça la semaine dernière en librairie, un livre sur l'ontologie de Dieu. Donc, si vous analysez l'ontologie de Dieu, c'est que subrepticement, vous présupposez l'existence d'une entité. Alors que toute la question, c'est de la démontrer. Mais c'est maintenant sous couvert d'une philosophie analytique de la religion. Donc, l'ontologie de Dieu, subrepticement, et c'est subventionné par qui? Fondation Templeton, qui donne des chaires à l'université de Oxford, qui bien sûr a une grande tradition chrétienne, hein, qui est très présente. Et ça a donné lieu en Angleterre à un gros débat où on disait, mais qu'est-ce que c'est les facultés de philosophie maintenant qui acceptent des millions de dollars? Et pas plus tard que là, 3 semaines dans la revue Nature, je découvrais que la Fondation Templeton venait de donner 7 millions de dollars à des biologistes qui, par hasard, devaient étudier des visions alternatives de la théorie de l'évolution. Sous couvert de faire de la vraie science aussi, mais de s'ouvrir à d'autres vues. C'est assez... Et donc, il y a eu des réactions des biologistes. Donc, cet argent-là pourrait aussi apparaître dans des cours de histoire des religions qui se seraient transformés tranquillement en théologie de religion, ou demander aux sociologues d'étudier d'autres façons, autres que sociologisantes, parce qu'on va dire que c'est du sociologisme. Hein? Ça, c'est le classique. Si on n'aime pas la sociologie, on dit que c'est du sociologisme. Or, au contraire, la sociologie n'est que l'extension du naturalisme qui a été d'abord appliqué à l'astronomie, ensuite à la géologie, ensuite à la biologie et ensuite à la société. Donc, c'est tout à fait normal en science de chercher des causes naturelles des phénomènes.
En France, on aime bien penser que on est les seuls dans le monde à pratiquer la laïcité. Les choses sont un peu plus compliquées que ça. Aux États-Unis, par exemple, il est interdit de donner de l'argent public à une école religieuse, ce qui n'est pas le cas en France. Est-ce que vous voyez la situation française comme une situation spécifique de ce point de vue-là, Yves Gingras?
Oui. Comme je disais, au niveau des avantages, c'est le fait que, au moins, les programmes scolaires, qui est la chose la plus importante. Si on insiste sur les programmes, c'est parce que ce qui est dans les manuels, c'est ce qui va devenir dans les têtes ensuite. Okay? Par contre, effectivement, ici, on oublie qu'à Strasbourg, il y a un concordat. Et donc, on a officiellement des facultés de théologie protestante. Et d'ailleurs, dans le livre, je critique un des professeurs de la faculté protestante de Strasbourg qui tient un discours assez ésotérique, au fond, pour montrer que la science et la religion s'avancent ensemble, mais que la science a des limites et que ces limites-là doivent être éclairées par la religion et par la théologie, ce qui est assez surréaliste. Mais je pense que la séparation est suffisamment bien délimitée pour que les lieux où cela s'exprime soit clairement identifié, alors que dans les autres endroits, comme aux États-Unis, c'est sous couvert de soi-disant recherches objectives, alors qu'ils sont teintés. Tous les historiens des sciences américains que je critique me disent qu'ils ne sont pas influencés par le fait qu'ils ont eu des millions de dollars de Templeton.
Merci beaucoup, Yves Gingras. Je rappelle le titre de ce livre passionnant, L'impossible dialogue, science et religion. Il est publié au PUF. On trouve les références bibliographiques sur la page de La Suite dans les idées. Vous pouvez également télécharger l'émission. C'était La Suite dans les idées. Sylvain Bourmeau, attaché d'émission Cyril Baer, à la technique aujourd'hui Ludovic Auger, à la réalisation Jean-Christophe Francis. Et c'est de science qu'il sera question dans quelques instants sur l'antenne de France Culture avec le physicien Étienne Klein.